Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Radio Galère 88.4 et c'est l'heure de BIM, ça veut dire BD et illustration à Marseille. Donc c'est une nouvelle émission consacrée à la scène graphique de Marseille, une scène graphique très riche qui méritait bien une émission de radio. Donc on parlera de BD, de livres illustrés pour petits mais aussi pour les grands, d'expositions, tout ce genre de choses, toujours en lien avec des artistes basés à Marseille et cette rentrée est très riche. Donc pour cette première émission spéciale bande dessinée, nous avons l'immense plaisir d'accueillir non pas une autrice ou un auteur, mais bel et bien une autrice et un auteur, en la personne de Lisa Lugrin et Clément Xavier. Donc couple à la ville et duo d'autrices à la riche bibliographie qui viennent donc de faire paraître aux éditions Delcourt l'excellent Le Lion de Guantanamo, une comédie délirante qui se déroule à Cuba en 2016 autour du voyage funéraire des cendres de Fidel Castro. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'essuyer les plates là pour cette première émission. Donc avant de revenir sur ce nouvel ouvrage, je vous propose que vous présentiez, qu'on revienne un peu sur vos débuts et certains de vos précédents ouvrages.
Allez,
pour parler un petit peu de votre travail aux auditeurices qui n'auraient pas eu la chance de vous avoir déjà lu. Alors, donc je l'ai dit, vous êtes un couple à la ville et un duo d'autoristes de BD. Vous vivez à Marseille depuis déjà quelques années, une dizaine d'années.
Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant, ouais.
Mais vous êtes né à Thonon-les-Bains et non pas Aix-les-Bains, comme j'avais dit, donc en Savoie. Et j'ai lu que vous étiez rencontré au lycée devant la photocopieuse. Ça veut dire quoi, devant la photocopieuse? Vous faisiez déjà des petites éditions
ou... Ouais, en fait, donc on s'est rencontrés au lycée, en effet. Donc c'était à Thonon-les-Bains. Et c'est des amis qui nous ont présentés parce que tous les deux, on adorait dessiner. On adorait déjà la bande dessinée à cette époque. Donc ils se sont dit que ça pourrait peut-être coller entre nous. Et en effet, ça a très bien marché jusqu'à présent.
Et on faisait un journal du lycée.
Ouais, on a fait tout de suite en fait un petit fanzine ensemble qui s'appelait Scorpion. C'était le fanzine sombre et sale qui coûte ce qu'il vaut. Ça coûtait le prix d'un petit café, tu vois. Et voilà, donc on a tout appris en fait en faisant ce fanzine parce qu'on était plusieurs à participer à la base et on s'est très vite retrouvés juste tous les deux à devoir vendre le truc, le fabriquer et puis assumer derrière une publication qui plaisait pas forcément à tout le monde, à commencer par le principal.
Oui, parce que c'était pas l'organe officiel du lycée.
Ah non, pas du tout.
Ouais. Et du coup, il y avait déjà. Donc, c'était pas que de la BD, j'imagine.
Il y avait que de la BD, presque.
Et donc, parce qu'on peut parler un petit peu effectivement de la spécificité un peu de votre duo, c'est-à-dire que donc Lisa est plutôt la dessinatrice, Clément plutôt le scénariste, mais c'est pas tout à fait aussi simple que ça, j'imagine.
Oui, et c'est hyper agréable parce que en tant que dessinatrice, quand il y a un scénariste qui écrit absolument tout, et enfin après il y a un petit côté un peu moins créatif en fait dans le dessin. Et là, ce qui est vachement agréable, c'est qu'on écrit quand même. Enfin, je peux intervenir, on en discute, et ça c'est très très chouette. Ce qui est chouette aussi, c'est que Clément il est vachement fort en découpage, donc ça veut dire comment on va raconter l'histoire concrètement en dessin, pas seulement en dialogue, etc. Et ça c'est très chouette aussi de pouvoir travailler ensemble là-dessus.
Ouais, c'est vraiment entremêlé en fait. Et c'est vrai que c'est le plaisir pour nous parce qu'il n'y a pas de chasse gardée ou de terrain réservé. L'autre peut tout à fait intervenir sur sa partie. Et du coup, on est très complémentaires, mais en même temps, on fait les trucs de façon imbriquée.
Et j'arrive à mettre des petites choses qui me tiennent vachement à cœur au milieu, à glisser un tout petit peu.
Ah oui, carrément. Ouais.
Une vraie complémentarité. Bravo. Et je voulais aussi un petit peu évoquer du coup votre parcours, je dirais pas scolaire, mais en tout cas un peu votre formation. Donc je sais que vous avez fait des études universitaires. Je crois, Lisa, tu as fait anthropologie et cinéma.
Ouais.
C'est ça, en même temps?
En même temps, mais parce que la BD, ça me semblait pas un métier sérieux. Donc je me suis dit que je pourrais peut-être faire un truc de technicien dans le cinéma et que ça, c'était un vrai métier parce que t'as quelqu'un qui t'emploie. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que sur toutes mes lettres de motivation, je disais toujours « Ah, j'adore la BD, ça ressemble au cinéma. » Et qu'en fait, en vrai, c'était la BD que j'aimais.
Et toi, Clément, tu as essayé de faire philo, c'est ça?
Ouais, moi, j'ai suivi Lisa, qui était donc une excellente élève. Je l'ai suivie à Paris et j'ai essayé de faire un petit peu de philo pendant quelques mois. Ça n'a pas forcément été super concluant. Et puis après, j'ai rien fait pendant longtemps. En fait, je faisais finalement mon métier déjà, puisque je passais mon temps à écrire et puis à dessiner. Je ne savais pas quelle forme ça prendrait. Donc en fait, sinon je gérais dans la ville, j'allais au cinéma tout le temps, je traînais un peu et je savais pas du tout. Moi, je pensais que plutôt bosser dans le cinéma à cette époque-là. Et voilà. Ouais.
Et est-ce que vous diriez du coup que cette formation, même si pas forcément aboutie, surtout pour Clément, ça vous a servi du coup ultérieurement en termes de peut-être de techniques documentaires ou,
ouais.
ou aussi en juste culture générale?
Carrément. Et en plus, j'avais, enfin, en fait, le cinéma, moi, c'était vraiment le cinéma documentaire qui m'intéressait, et c'est absolument génial au niveau des formes, de la créativité. C'est assez impressionnant. On est abonné à Tank aussi, et on continue de regarder des films. Enfin, je trouve ça super. Et c'est beaucoup, enfin, il y a quelque chose de très très libre en fait dans ce qui s'invente. Et moi, j'avais une idée hyper cloisonnée. C'était que la BD, c'était de la fiction. À l'époque, en fait, ça commençait tout juste l'autobiographie, mais en fait, il n'y avait pas tant de BD vraiment documentaires. Il y en avait quelques-unes, hein, mais... Et pour moi, c'était quand je suis allée vers la BD, je me suis dit, bah, du coup, je vais faire de la fiction, je laisse tomber le documentaire. Et c'est petit à petit, en fait, qu'on est revenu à ce côté documentaire dans la BD qui était... Enfin, finalement, j'ai réussi à mettre ensemble mes deux amours, quoi, BD et documentaire, mais assez tard.
Oui, et puis en culture générale, comme tu le disais, c'est vrai que nos sources d'inspiration viennent énormément de là. Par exemple, d'un cinéaste qu'on adore, qui est une référence incontournable pour nous, c'est Jean Rouch. Et donc, dans cette idée-là de parler du réel, mais le réel est composé d'énormément d'imaginaires, évidemment. Et lui arrive à raconter ça et à mettre au cœur du réel tout un processus imaginaire que les gens transportent avec eux dans la réalité, quoi.
Oui, ben on en reparlera tout à l'heure avec du coup votre dernier ouvrage, L'Union de Guantanamo, qui illustre bien cette démarche à la fois documentaire et en même temps avec de la fiction dedans. Pour finir un petit peu sur votre parcours, donc du coup après effectivement ce passage universitaire à Paris, donc du coup vous décidez d'aller à Angoulême, donc la Mecque de la BD en France, donc pour du coup là reprendre des études, enfin continuer du coup les études. Qu'est-ce que vous aviez en tête?
Oui, mais en fait, c'est qu'à un moment, je me suis dit, mais je serais vraiment trop malheureuse si je ne fais pas de BD. Je me disais que la BD, je la ferais à côté d'un vrai métier et je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. En fait, la BD, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'allais tenter de faire vraiment ça. Voilà.
Ouais, donc moi, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, j'ai suivi Lisa. En fait, à ce moment-là, j'ai fait un stage de cinéma au Burkina Faso dans une petite société de production. C'était super intéressant et en même temps je me suis rendu compte que ça correspondait, le cinéma correspondait pas vraiment à mon tempérament puisque je suis assez solitaire et devoir travailler en permanence avec des grosses équipes, puis ça coûte quand même de la thune quoi, de faire des projets, alors que faire une bande dessinée, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on a besoin d'une feuille, d'un crayon et puis hop quoi, on peut vraiment créer une histoire et la partager avec des gens. Donc je suis rentré de cette expérience un peu peiné aussi quelque part, sans trop savoir ce que j'allais faire, en sachant que le cinéma c'était une porte qui se refermait peut-être temporairement, du moins pour moi. Et c'est à ce moment-là que Lisa, donc elle, a été prise à l'école d'Angoulême et je l'ai accompagnée là-bas. Et pendant 3 ans, je crois, hein, toi t'as été à l'école, moi j'y étais pas encore. J'ai vraiment, pareil, je faisais pas grand-chose à part écrire de mon côté, mais sans savoir ce que ça allait donner. Et au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que cette école était assez sympa. Et du coup, j'ai passé le concours et j'ai été admis, ce qui a été une grande surprise pour moi. Et voilà, j'ai pu apprendre à ce moment-là.
Et du coup, cette formation, elle vous semble... vous a apporté quelque chose ou c'est une confirmation de ce que vous pensiez sur le métier, sur façon de travailler?
Ouais, c'est une formation pas du tout professionnalisante. Il y a quelque chose, des caractères comme le mien, assez flippant aussi. Mais justement, du coup, tu te bouges, tu te dis bon, il va falloir que je sois moi dynamique aussi de mon côté. Et ce qui est très chouette, c'est qu'on te pousse à découvrir plein de trucs, à faire plein d'expériences, et ça, c'est très bien. Ce qui est chouette aussi, c'est que tu rencontres plein d'autres auteurs, autrices qui sont des amis aujourd'hui, avec lesquels on travaille, et ça, c'est vraiment carrément génial, qui font des choses géniales et qui te font découvrir plein de choses aussi. Et voilà. Et comme on était quand même assez stressés, on se disait, mais là, pour l'instant, on a un tout petit répit. On est à l'école, les gens nous laissent tranquilles. Mais vu la direction qu'on prend, tout le monde va nous tomber dessus dès qu'on aura fini cette école et va nous dire, bon, maintenant, trouve un boulot sérieux. Tu t'es bien amusé aux Beaux-Arts. Et donc, on envoyait tout le temps des projets avec Clément à des éditeurs. Et à chaque fois, on avait des refus, mais on en a envoyé plein, 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 dont des refus qui nous disaient « je ne vous édite pas » et « ne m'envoyez plus jamais rien ». Et voilà, on a persévéré et du coup aussi, on s'est dit qu'on allait se débrouiller par nous-mêmes parce que c'était, en fait, on voyait que c'était trop difficile comme ça.
Ouais, en fait, juste l'école, c'est vrai que ce que ça nous a énormément apporté, c'est qu'on ressentait une pression sociale quand même très, très, très forte pour qu'on aille bosser enfin. Surtout moi, tu vois, qui faisais pas grand-chose. On n'arrêtait pas de me dire, bon, quand est-ce que tu vas sortir de ta chambre pour vraiment te confronter à la vraie vie, gagner un peu des sous, t'insérer dans la société, etc. Donc, on ressentait ça très fort. Et là, on a eu, en entrant dans cette école des Beaux-Arts, là, genre 2-3 ans où les gens ne se permettaient plus cette pression-là. Ils disaient, on va attendre, ils vont faire leur petite expérience sympa d'artiste et tout. Quand ils en sortiront, évidemment, il faudra qu'ils bossent, qu'ils soient sérieux. Ils auront, voilà, quoi, la parenthèse sera fermée. Mais ça nous a offert ce petit bol d'oxygène. Et ça, c'est vrai que c'est inestimable, quoi.
Oui, et par rapport à ce que tu disais, du coup, Lisa, de se débrouiller par vous-même. Donc, du coup, c'est à Angoulême que vous avez commencé à faire de l'auto-édition.
Ouais, en fait, pas tellement d'ailleurs de l'auto-édition, mais c'était une toute petite maison d'édition associative. On a commencé avec un journal gratuit. On est allé un an en Italie, en Erasmus. On a rencontré plein d'autrices hyper chouettes qui étaient toutes dans le même cas que nous, en fait, à se galérer pour être publiées. Enfin, c'est pas du tout évident de commencer direct. Et on a fait ce journal avec plein d'auteurs et d'autrices de partout dans le monde, qui étaient français, anglais, qui étaient donc gratuits, imprimés par la Charente Libre, qui nous l'imprimait pas cher du tout. Ils étaient hyper sympas. Et on en tirait, je sais plus, à 10 000 ou 20 000 exemplaires. Et comme on voulait pas que... On voulait aussi que pour les lieux de diffusion, ce soit pas que les librairies. Il y avait bien sûr les librairies, mais aussi les cinémas d'art et essai, des salles de concert, plein de lieux. On se disait, mais finalement, la BD... Maintenant, c'est moins le cas, mais en fait, à cette époque-là, c'était vraiment des gros enjeux de la bande dessinée, c'était de dire, mais c'est pas que pour les enfants, c'est pas que pour les ados attardés, et en fait, on peut faire des choses aussi qui sont chouettes et qui peuvent plaire à d'autres gens qui aiment bien la culture en général, les choses expérimentales en général. Et donc, c'est comme ça, on s'est retrouvés à appeler tous les lieux un par un pour être sûr qu'ils n'allaient pas les jeter à la poubelle, qu'ils allaient les mettre en valeur, qu'ils avaient vraiment envie de les recevoir. Et voilà, on s'est retrouvés à envoyer entre 10 000 et 20 000 exemplaires. On a fait 3 journaux gratuits et après on a fait une petite revue qui s'appelait L'Épisode.
Bah, félicitations, effectivement, sacrée aventure. Et donc vous avez continué un petit peu effectivement cette pratique d'édition alternative, donc avec une structure qui s'appelle NA Édition. Vous avez publié plusieurs ouvrages et qui maintenant ça a été rebaptisé Bandit d'honneur. Je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots.
Ouais, bah en fait, NA Édition, donc là, on rentrait un peu plus dans l'édition mainstream, dans le sens où on avait un diffuseur, Les Belles Lettres. Donc voilà, c'était une expérience vachement intéressante parce qu'on a fait des bandes dessinées, on a essayé de faire des bandes dessinées, des beaux livres, des beaux ouvrages, etc. Là, on ne s'auto-éditait pas, c'était vraiment
consacré.
C'était
des amis.
Ouais.
Ouais. Enfin, des amis ou des gens qu'on aimait bien. Et il y avait par exemple l'idée de faire une collection 48cc, c'était d'avoir... En fait, c'est toujours d'utiliser des supports vachement populaires comme le journal. Et là, c'était le 48cc, c'est le 48 pages cartonné couleur, c'est le classique Tintin, Spirou, etc. Mais avec des styles à l'intérieur et des histoires qui étaient, qui explosaient complètement le genre. Et voilà, et on se disait d'essayer de mélanger un peu les deux... ce côté très populaire et très expérimental.
Donc c'était beaucoup de travail et puis en fait au bout d'un moment on a eu des enfants et donc c'était impossible pour
Quelle
nous
idée.
De conjuguer ouais c'est bizarre hein. Impossible pour nous de conjuguer tu vois la vie familiale notre travail d'auteur et puis cette maison d'édition et puis il y a tellement d'éditeurs, tellement de livres, des super bandes dessinées en librairie, j'ai pas l'impression qu'à ce moment-là, on avait grand-chose à apporter, tu vois, en termes de petits plus, quoi. Et puis, là, il y a pas très longtemps, on a quand même eu envie de revenir à l'édition, mais peut-être dans un côté un peu plus libre, un peu plus lâché, en refaisant notamment des fanzines, ça nous avait énormément manqué. Donc c'est pour l'instant de la toute petite édition, un peu alternative, et voilà, juste pour se faire plaisir...
Félicitations. Et donc, on attend les prochaines publications, je crois, pour Noël, si je ne dis pas de bêtises.
Pour le fameux marché de Noël organisé par BIM.
Par BIM, exactement. Bon, on en reparlera peut-être dans une prochaine émission. Moi, j'avais une dernière question par rapport à votre parcours. Donc, du coup, effectivement, on a dit Thonon-les-Bains, Paris, Angoulême Et puis après Marseille, donc pourquoi Marseille et qu'est-ce que vous trouvez du coup ici que vous ne trouviez pas forcément ailleurs?
Tout. Non, et bah, le soleil, la mer et le côté culturel hyper chouette. Je trouve que Marseille, c'est génial pour ça. La scène vraiment conventionnelle, en fait, il n'y a pas forcément tant d'offres culturelles que ça, mais en fait, au niveau alternatif, c'est génial. Et ne serait-ce que les mots sur les murs. Enfin, je trouve qu'en fait, il y a une vie culturelle à Marseille qui est hyper populaire et qui est vraiment partout, en fait. Enfin, des fois, je prends des photos d'affiches. Enfin, c'est hyper intéressant ce qui est écrit sur les affiches. Elles sont toutes côte à côte. Et franchement, ça fait ma culture. Enfin, c'est aussi intéressant que de lire un journal. Et par exemple, le mot sororité, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait, je ne sais pas, il y a 5-6 ans, sur les murs de ma rue. Et voilà, je trouve que Marseille, c'est hyper chouette. Fin...
Ouais, bah, tout à fait. Angoulême, c'était bien parce que, tu vois, il n'y avait rien à faire. Donc, en fait, on a énormément bossé là-bas. Et puis, bah, Marseille, en fait, on profite un peu plus, quoi. Donc, on travaille moins, quand même. Mais il y a le soleil et puis il y a les gens, quoi, surtout.
Bravo, merci. J'ai oublié de dire que l'émission était sponsorisée par la mairie de Marseille, c'est pour ça qu'on est obligé de faire une petite question là-dessus. Non, mais c'est super. Du coup, oui, je voudrais qu'on aborde assez rapidement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages, et ils sont tous très, très riches que vous avez signés. Alors peut-être rapidement sur le premier ouvrage que vous avez publié de façon professionnelle, avec plein de guillemets, donc chez Fleubeleup, qui est une petite maison d'édition basée à Poitiers, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'était Yekini, qui est un ouvrage sur la lutte sénégalaise, donc assez méconnu en France, même en dehors du Sénégal, je dirais. Et donc, il y a un ouvrage donc, qui est votre premier livre, qui est un imposant bouquin là, qui doit faire un certain
400
nombre
de... pages.
400
ouais.
pages, voilà. Qui était, pour un premier livre, quelque chose d'assez étonnant. Aussi sur la forme, donc peut-être revenir un peu sur la genèse de ce livre, qui aussi, après, du coup, un peu, donné le ton des autres ouvrages que vous avez faits.
Ouais, en fait, mes parents habitaient au Sénégal à ce moment-là. Et donc, on allait souvent les voir en fait en vacances. Et c'est comme ça qu'on a découvert la lutte sénégalaise complètement par hasard sur les parce que là-bas c'est vraiment aussi populaire que le football, tu vois. Donc tous les dimanches, ils organisent des combats dans l'équivalent du stade de France, donc des énormes stades. C'est très médiatisé aussi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a eu envie en voyant des grandes affiches sur notamment le combat du siècle qui devait célébrer en fait l'indépendance du Sénégal, où il y avait, je crois que c'était Tyson, un lutteur qui s'appelait Tyson. Donc déjà, waouh, il est inspiré de Mike Tyson. Alors lui, il avait carrément un boubou taillé dans une bannière, dans la bannière des États-Unis là, tu vois, et qui affrontait Yekini. Et Yekini, on ne savait pas du tout qui c'était à cette époque-là. Et en allant voir ce combat, on s'est rendu compte que c'était le lutteur que tous les jeunes détestaient. Parce qu'il gagnait tous ses combats depuis une bonne quinzaine d'années. Donc c'est un athlète de très 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 haut niveau, parce qu'il faut tenir quand même, tu vois. Mais voilà, les jeunes étaient lassés par ce type qui était assez ennuyeux finalement, puisqu'il passait sa vie à s'entraîner, à bosser, tu vois, pour être le meilleur lutteur possible. C'est comme ça que ça lui permettait vraiment de plier le match, quoi. Mais les jeunes, ils avaient envie de lutteurs plus sulfureux, plus marrants, un peu plus polémiques. Donc ce jour-là, il a encore gagné, bien sûr. Et on a acheté dans le stade un t-shirt de Yekini vendu par un gars, tu vois, un vendeur ambulant qui passait comme ça avec son lot de t-shirts à vendre. Et c'est une image de Yekini qu'on voit qui se met un doigt dans l'oreille, quoi. Je sais pas trop pourquoi, je comprends pas trop le sens, mais bon, on l'a acheté. Et puis en rentrant en France quelques mois plus tard, on a été invité par Grégory Jarry, notre éditeur chez Fleubeleub, avec qui on avait déjà un petit peu collaboré, c'était déjà des bons copains. Et il nous a dit, bon, ce serait bien que vous bossiez sur un projet, tout ça, mais vous avez une idée? Ben non, on n'en avait absolument pas. Mais ce jour-là, moi, j'étais parti pour leur rendre visite, j'avais plus rien à me mettre, donc j'avais chopé ce vieux t-shirt qui traînait dans un coin, tu vois. Et donc j'avais ce t-shirt. Puis il me dit, mais c'est quoi ce mec qui se met le doigt dans l'oreille, là, c'est trop bizarre et tout, Yekini, c'est qui? Et on en a parlé, en fait. Et là, à ce moment-là, il nous a dit, mais vous l'avez, votre sujet. Il faut faire une bande dessinée sur Yekini. On n'y avait jamais pensé par nous-mêmes, mais on s'est dit, bah, pourquoi pas. Donc après, on est retourné au Sénégal avec cette idée en tête, vraiment pour rencontrer Yekini, évidemment, et puis tous les autres lutteurs dont on parle. Et on est resté, je ne sais pas, 2-3 mois là-bas. Et c'était trop cool, trop intéressant pour nous.
Oui, c'est un ouvrage, je disais, donc imposant, mais assez étonnant aussi sur la forme, parce que vous mêlez des photos à de la BD plus classique, entre guillemets, qui est dessinée en noir et blanc. Ouais. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, aussi, donc, du coup, une partie documentaire, enfin, en tout cas documentée, et puis des bouts de fiction, parce que vous inventez pas mal de choses, mais tout ça dans un cadre quand même assez réaliste.
Ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment comme ça qu'on est arrivé au documentaire. Enfin, pour nous, en fait, on était beaucoup plus du côté de la fiction en bande dessinée, et c'est par Flubble Up et avec cette discussion qu'on en est arrivé là. Et on essaie, dans la BD, en effet, il y a ce côté documentaire qu'on garde, et en même temps, on rajoute beaucoup de fiction, parce qu'en fait, c'est pas du tout avec de la voix off qui explique des choses, en fait, c'est vraiment, on va être avec Yekini, on va se plonger avec lui, on va vivre les choses avec lui, et on y met aussi des choses de nous, en fait, on projette un peu dans cette histoire. Et d'ailleurs, avant que la BD sorte, on a eu super peur que ça ne convienne pas à Yekini, parce qu'en fait, il est vivant, il est vachement connu et tout. Et donc, on lui a envoyé un peu avant, mais on était hyper stressés parce qu'on se disait, bon, s'il nous dit de refaire... Enfin, on avait passé 2 ans et demi à travailler dessus, à faire ces 400 pages. C'était un peu fou, quoi. Et en fait, c'était vachement marrant parce qu'ils ont trouvé ça super bien. Il était d'accord sur tout. Il nous a juste fait changer 2 trucs. À un moment, il buvait une bière avec ses copains et en fait, il ne boit pas d'alcool, ce qui est très sage. Et il nous a aussi fait remarquer, parce qu'il y a un moment, il y a une petite compétition entre lui et Tyson, et en fait, il voit la maison de Tyson qui est vachement chic, et il nous a dit « Ouais, mais la mienne fait quand même 1 étage de plus que celle de Tyson, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de le dire. » Donc voilà, c'est resté assez ouvert.
Ouais, bah en tout cas, j'invite les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas cet ouvrage à se jeter dessus.
Et juste un truc, donc par rapport aux photos, je crois on en parlait un petit peu, le fait qu'il y a un aspect donc dessiné, mais aussi parfois des petites pastilles photographiques. Bah ça, c'est juste que on a pris des photos en étant sur place. On n'avait pas du tout pensé à la base les intégrer dans la bande dessinée. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la réalité quand même dépasse souvent la fiction. Et quand on voit vraiment Yekini, ce à quoi il ressemble, quand on le voit dans le stade, ses adversaires aussi, ses concurrents, et même tous les petits objets qu'on a pu dénicher en étant au Sénégal, les bonbons Balagueï 2, donc son pire ennemi, son adversaire de toujours. Enfin voilà, on avait aussi envie de le partager avec les lecteurs. Et ça, je pense que l'inspiration vient aussi beaucoup de Jean Tellet, qui est un auteur qu'on adore plus que tout.
Ouais, qui avant de faire des romans faisait de la bande dessinée documentaire, justement, où il intégrait la photo, du photomontage dans ses récits, faisait, qui étaient des reportages, Jean de France, etc.
C'est exactement ça, et ça, pour moi, c'est vraiment Jean de France, c'est une œuvre majeure qui m'a énormément bouleversé, touché, et ouais.
Aussi à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas. Alors on n'aura malheureusement pas le temps de revenir sur tous vos autres ouvrages, mais bon, comme je les cite, il y a eu donc juste après Géronimo, qui est donc une adaptation des mémoires du chef Apache. Ouais, merci. Donc là aussi, vous mêlez des parties reportages avec des photos, parce que vous êtes allé sur place.
Rencontrer ses descendants dans une réserve au Nouveau-Mexique.
Ouais. Voilà, donc c'est aussi un ouvrage très riche, très intéressant. Il y a eu Jujitsu Fragette juste après, donc là, ces deux-là sont chez Delcourt, plus chez Flebeleu. Donc là où c'est sur l'histoire de suffragettes qui sont mises au jujitsu au début du XXe siècle, donc à Londres, voilà, qui est aussi un ouvrage hyper intéressant, qu'une facture plus classique, parce que là on est dans un... C'est pas 48 pages, mais du coup en cartonné, couleur, voilà, mais aussi un ouvrage très très riche avec des ponts vers l'actualité. Moi ce qui m'intéressait un petit peu, c'est de aussi votre travail à deux, on en a un peu évoqué, et aussi vos collaborations. Parce que du coup, donc Clément de son côté écrit aussi pour d'autres dessinateurs et dessinatrices. Et tous les deux, vous écrivez aussi. Donc ça, peut-être voir pourquoi cette envie de travailler avec d'autres.
Mais en gros, c'est que le scénario, ça s'écrit quand même beaucoup plus vite que le dessin. D'autant que Clément est hyper efficace. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et puis aussi que c'est sa passion, donc il fait ça tout le temps, à la limite sous la douche. On a plein d'idées que je peux pas dessiner parce qu'en fait j'ai pas le temps, je suis déjà engagée sur une BD et moi ça me prend minimum 1 an, mais en fait en vrai c'est au moins 1 an et demi, 2 ans et demi chaque BD. Et donc ce qui est génial, c'est que on peut travailler avec d'autres personnes et travailler quand même sur ces sujets. Moi, ça me fait vachement de bien parce que sinon, je suis bloquée 2 ans sur un même sujet. Et donc, c'est génial de pouvoir aussi avoir ce travail à côté. Et j'ai aussi découvert un plaisir de scénariste, c'est que quand tu travailles avec quelqu'un dont tu adores le travail, en fait, toi, t'imagines des choses quand tu lui envoies le texte. Mais en fait, ce qu'il t'envoie, c'est mieux que ce que tu avais imaginé. Et ça, c'est vraiment super.
Ouais, on est assez complémentaires aussi dans l'écriture. Parce que moi, je suis plus empirique, vraiment dans la, dans créer les situations, suivre les personnages en fait. Et voilà. Et Lisa, elle a cette qualité que j'ai beaucoup moins, c'est d'être capable, je dirais, d'organiser, de voir à plus long terme, de réfléchir à la structure. Et voilà, je pense que ça c'est chouette, ouais.
Bravo pour tout ce travail en tout cas. Et donc oui, on peut citer donc des auteurs avec qui vous avez collaboré. Il y a Paul Chérissy notamment, avec qui vous avez donc chez Fleubeleub, on y revient, sorti un ouvrage là juste avant l'été qui s'appelle La Dent de l'Iguanodon, donc sur alors j'ai noté Marianne et Gédéon Mantel, je ne me trompe pas, voilà, qui sont donc un couple qui ont découvert les dinosaures, parce que c'était des paléontologues amateurs.
Ouais.
Et donc aussi ce travail de couple, donc là aussi un ouvrage très 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 intéressant. Et bon, alors moi j'adore vos romans photos, bon on va pas s'étendre dessus, mais comme je voulais les citer, là vous avez sorti 2 romans photos, un qui s'appelle Mon voisin s'appelle Brad Pitt, super, sur la gentrification à Marseille, mais pas que, hein. Donc vous imaginez que Brad Pitt vient s'installer chez vous, et du coup il y a Georges Clooney qui vient le suivre.
À côté de chez nous, ouais.
Voilà, oui, à côté de chez vous, pardon.
Et ils sont sympas parce qu'ils ont vraiment accepté de jouer dans le roman photo.
Bien sûr.
Donc c'est, je tiens à les remercier d'ailleurs, profiter de l'antenne. Merci Brad, t'as fait un boulot remarquable.
Ouais, je crois qu'il nous écoute en plus. Et le deuxième s'appelle Même le grand soir a commencé petit, là, donc sur des enfants qui ont une espèce de maturation ultra, ultra rapide et qui
vont sauver le monde normalement, à moins qu'on soit vraiment trop bête et qu'on les écoute pas suffisamment.
Voilà, donc 2 ouvrages essentiels aussi. Voilà, ben on va faire une petite coupure musicale pour annoncer du coup, et après on parlera du Lion de Guantanamo. Et donc c'est notre spécialiste musique Emmanuel Blervac qui nous a choisi dénicher cette petite pépite. Donc c'est de la musique cubaine, parce que du coup le Lion de Guantanamo se passe à Cuba. Et donc c'est un titre des Lekuana Cuban Boys qui s'appelle Rubatamba, donc qui date de 1935.
De un negro que perdió su libertad y su Dios, sin el cariño que el cruel destino le robó. Bajo la luz solar de un cielo tropical, sufriendo vive con el dolor que le da la vida feliz. De un negro que perdió su libertad y su Dios, sin el cariño que el cruel destino le robó. Negro tabaco. Olvida tu libertad y te alegre, negro. Mira cómo viene la camisa, ¿eh? Ahí viene toda la camisa arrollada. Niño, ay, qué triste está, el negro estaba y no tiene libertad y le da vida pasar mientras el alma no lo sabe sufrir.
Voilà, j'espère que vous avez bien profité de ce moment de rumba. Voilà, donc c'était un... donc les Licuana Cuban Boys, donc c'est un orchestre typique cubain d'avant-guerre, donc avant la révolution castrice, dont on va parler juste tout de suite maintenant, après. Donc où à l'époque encore, Cuba était sous influence plutôt américaine. Donc voilà, donc dans le Lion de Guantanamo, je fais un rapide résumé, et puis après ben, on parlera un petit peu de comment est né cet ouvrage. Donc c'est un récit très enlevé, très drôle sur deux journalistes, et donc il y a François, un vieux briscard très expérimenté, et Nikita, une jeune débutante dans le métier, qui partent à Cuba, donc on est en 2016, et donc ils ont pour projet de faire une interview de Fidel Castro, sauf que, manque de peau, une fois arrivés sur place, ils apprennent que Castro vient de mourir. Et donc que vont-ils faire? Ben, ils vont trouver un autre scoop. En fait, ils ont vent que il va y avoir donc un convoi funéraire qui va emmener les cendres de Castro jusqu'au sud de l'île, et qu'il y a une halte secrète qui est prévue tout près de Guantanamo. Donc personne n'est au courant à part ce fameux François. Et ils vont décider d'essayer de faire un reportage là-dessus. Sauf que bon, voilà, il va se passer tout un tas de péripéties. On va pas forcément tout raconter. Laisser découvrir aux auditeurs, aux auditrices, cet ouvrage encore passionnant. Et donc, juste une petite chose par rapport au titre, Le Lion de Guantanamo, c'est qu'en fait, effectivement, cette halte secrète est remise un petit peu en question parce qu'il y a un lion, une lionne même, qui vient de s'échapper du zoo à côté de Guantanamo. Donc du coup, la halte est remise en question, à moins que François et Nikita ne retrouvent le fauve et qu'on puisse tout faire rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est aussi une façon bien sûr de raconter l'île et son histoire, d'autant plus que le récit est entrecoupé du coup de pages plus documentaires sur du coup l'histoire de Cuba. Donc ça aussi, on reviendra dessus. Voilà, moi c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, enfin comme tous vos livres, mais qui est à la fois très drôle, toujours très instructif, mais avec voilà, très agréable à lire. Et donc je voulais savoir un petit peu comment était né ce projet. Je sais que c'est un travail de longue haleine et qu'il a une histoire un petit peu particulière, donc je vous laisse présenter un petit peu comment vous...
Ouais, bah, en fait, en effet, c'est vraiment un projet qu'on a commencé il y a, je sais pas, 9 ans à peu près. Donc ça a été une bande dessinée pendant longtemps, un projet un peu maudit qu'on a traîné comme ça, comme un boulet. Et finalement, donc on a réussi à lui donner cette forme-là qu'on aime beaucoup. Mais on a essuyé les plâtres aussi et on a fait pas mal de versions, de versions différentes. Et ça a commencé en fait, bah, on parlait de Yekini à l'instant, bah, un jour... Il y a François Missen, le journaliste dont on s'inspire pour le personnage principal du Lion de Guantanamo.
Peut-être en dire deux mots, parce que c'est un personnage, ouais. Et dans la BD et en vrai, j'imagine.
Ouais. Donc François Missen, c'est un journaliste, donc là il doit avoir 90 ans passés. Hein. Quand on l'a rencontré, il avait 84 ans, une forme éclatante. Et il nous a. Et donc en fait, c'est le seul journaliste à avoir eu le prix Albert Londres et, la, et le prix Pulitzer.
Pour, la même année.
La même année pour avoir révélé la French Connection. Donc, vous savez, là, ce fameux trafic de drogue entre Marseille et les États-Unis. Donc, c'est un sacré personnage.
Et un reportage sur la guerre de Kippour.
Ouais. C'est un sacré, sacré personnage. Et donc, un jour, il nous a appelé, il a dit « Bonjour, c'est François à l'appareil. J'ai lu dans La Provence. » Bon, je l'imite pas super bien, mais même s'il a cette voix un peu grave et posée. Et il avait lu dans La Provence un article sur Yekini, justement. Et donc, ça l'a interpellé et il nous a invité à aller chez lui pour discuter d'un projet qu'il avait, puisque lui, il adore Cuba. Il y allait, je crois, chaque année depuis à peu près 70 ans. Donc, il connaissait très, très, très bien cet endroit. Et il nous a parlé de Guantanamo. Il nous a dit que ce serait intéressant de faire une BD là-dessus parce qu'on connaît bien la base. Enfin, on connaît bien. Tout le monde a entendu parler de la fameuse base américaine où on torture les gens là-bas. Mais là, il y a une petite ville qui s'appelle Guantanamo juste à côté. Et donc, ce serait chouette d'aller regarder ce qui s'y passe. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à partir en fait, avec lui à Cuba.
Exactement.
Donc ça, c'était il y a 9 ans, donc du coup, à peu près. Donc du coup, ce voyage à Cuba, vous aviez déjà en tête une histoire assez précise ou c'était du coup là, découvrir l'île et puis après voir ce qu'il allait en sortir ?
Eh bien, en fait, on y allait vraiment complètement pour découvrir sans avoir aucune idée de ce qui allait se passer. Et on avait déjà l'idée du lion de Guantanamo parce que François nous avait raconté qu'un lion s'était effectivement échappé d'un zoo à Cuba, et voilà, enfin, ça faisait toute une histoire parce qu'en fait les gens essayaient de le rattraper non pas pour qu'il dévore pas les gens, mais pour le manger lui, parce qu'en fait ils ont pas beaucoup de viande. Et voilà, on était parti avec juste cette idée, et justement ça a été un peu le problème, c'est que d'habitude quand on part et qu'on a des idées en tête, en fait on arrive à les écrire après, et là en fait on l'a pris dans tous les sens cette histoire, soit c'était trop petit de parler que de Guantanamo, soit c'était trop gros de parler de tout Cuba. Et en fait, il y avait des trucs pas mal, mais il y avait des trucs qui étaient pas bien, quoi. On n'arrivait pas à trouver comment bien le raconter. Et moi, j'ai fait quand même le découpage. Justement, c'était l'époque où on faisait des livres de 400 pages. Donc, je crois que j'ai découpé au moins 350 pages. Enfin, ça veut dire que j'ai fait le brouillon très, très poussé de la totalité. Après, j'avais plus qu'à dessiner, mais bon, ça allait me prendre encore un an. Et en fait, je l'ai relu et je me suis dit, non, mais c'est pas bien. C'est pas assez bien. Je n'arrivais pas à prendre mon crayon pour la dessiner au propre. Donc on l'a laissé de côté, Clément était désespéré, il se demandait quand j'allais m'y mettre, et j'arrivais jamais à m'y mettre. On a fait donc des BD entre, et au bout d'un moment on s'est dit quand même, on l'a relu, mais je sais pas, 5 ans après, en se disant quand même c'est vraiment trop bête, il y avait vraiment des bonnes idées, il y a des trucs qui y vont pas, mais il y avait des choses vraiment bien. On a enlevé la moitié, on est reparti à 150 pages, et on a rajouté plein de trucs, et en fait c'est assez marrant parce que enfin, on l'a vraiment mûri cette BD, c'est-à-dire qu'on a gardé que ce qu'on trouvait vraiment bien, et on a rajouté plein de choses vachement personnelles. En fait, c'est, enfin, je pense que c'est vraiment la BD, peut-être avec Yekini aussi, mais qui nous est la plus personnelle, où vraiment c'est complètement nous. D'ailleurs, on a rajouté ce personnage qui n'y était pas, de Nikita, qui est vraiment ma petite cousine et qui débute vraiment dans le journalisme. On a mis aussi des personnages qu'on a croisés entre-temps, deux Cubains qui sont adorables, qui sont géniaux, et qu'on a mis à l'intérieur. Donc en fait, c'est une sorte de mélange, c'est vraiment une fiction. Et en même temps, il y a plein de trucs documentaires et très intimes aussi qui s'y glissent. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un truc vraiment... ce livre avait besoin de 8 ans, en fait. Et finalement, on est vachement contents de ce qu'on a fait. Je ne sais pas si c'est bien, mais nous, on est vachement contents.
Non, bah, de mon côté, je confirme, c'est un très bel ouvrage et très riche, comme souvent dans votre bibliographie. Mais moi, je trouve effectivement qu'on retrouve, alors, sans être jamais allé à Cuba... pour ma part, mais bon, il y a quand même un portrait assez dense et assez complet, je pense, de ce que peut être l'île, et surtout pas manichéen. Hein. Du coup, vous montrez, je dirais, les bons côtés du régime castriste, même si bon, effectivement, il est décédé, mais repris par son frère, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et aussi les côtés négatifs. Voilà, donc il y a du côté positif, il y a tout ce côté l'éducation, la santé, qui sont des systèmes très performants.
Ouais.
Voilà, que vous mettez, que vous illustrez. Et puis à côté, bon, bah, les points négatifs, notamment, bah, on voit ces gens, du coup, qui ont des espèces de supérettes dans leur cage d'escalier, où ils vendent un peu tout et n'importe quoi. Ou alors, du coup, bah, pour les touristes, quand ils accueillent. Voilà, donc ça, c'était une envie de votre part, ou ça vous semblait naturel, de toute façon, de présenter les choses comme ça ?
Et oui, en fait, on avait envie de sortir des clichés sur Cuba parce que on le présente, enfin, c'est souvent présenté comme une dictature, ce qui est vrai parce que, enfin, je veux dire, c'est deux frères qui sont au pouvoir depuis plus de 50 ans. Mais par contre, il y a aussi plein de choses vachement intéressantes. Et dans cette période où on est en crise, où on sait qu'on va aller au devant de plus en plus de crises écologiques, de pénuries, etc. En fait, eux, ils ont expérimenté ça, en fait. La difficulté d'avoir des matières premières, etc. Depuis très longtemps, ils ont trouvé plein de solutions vachement intéressantes. Ça ne veut pas dire que tout est génial là-bas, mais qu'il y a des solutions qui peuvent vraiment nous inspirer, qui sont très, très chouettes. Par exemple, c'est pas un choix de leur part, c'est juste qu'ils n'avaient pas accès aux pesticides, en fait, pendant la période spéciale après la chute de l'URSS. Et donc, toute leur agriculture est bio, mais juste par défaut, parce qu'en fait, ils n'ont pas pu y avoir accès. Et abeilles...
Parce qu'il y a un embargo décrété par les États-Unis depuis la guerre froide, quoi.
Ouais, et qui est décrié par les Nations Unies depuis quasiment qu'il existe, quoi.
Ouais.
Et voilà, donc, comme ça, ils se retrouvent à avoir un des seuls endroits, je crois qu'il y a 3 endroits au monde où les abeilles vont bien, et donc Cuba en fait partie. Ils ont aussi expérimenté énormément de choses, où par exemple pour la viande, on sait que c'est un désastre écologique en fait, la viande. Donc il y a très peu de viande disponible, et ça va être les personnes âgées, les enfants en priorité, les femmes enceintes, et tout le monde a un rationnement de viande où on en mange mais très peu. Et en effet, pour la santé, pour plein d'autres choses, en fait, c'est quand même assez intéressant.
Ouais, bah, c'est exactement ça. Ce qui nous intéressait, c'était de montrer cette... En fait, à la base, on ne savait pas du tout, nous, ce qu'on allait raconter. Hein. Moi, j'aurais très bien pu parler d'une horrible dictature. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas ce qu'on a vu là-bas. On a vu des gens pleins de ressources qui avaient innové, mais dans tous les domaines, qui bricolaient à droite, à gauche. Et c'est exactement ce que disait Lisa. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais en fait, c'est très pertinent par rapport aux défis qui nous attendent.
Et, culturellement aussi, après on a voulu parler de plein de choses qu'on a juste découvertes, les Indiens Taïnos par exemple, qui vivent là-bas, qui étaient les premiers habitants de l'île, etc. Donc, et on a pu, on a réussi à aller les voir malgré, en bravant un peu les espions. On avait envie aussi de parler de plein de choses et des gens, quoi.
Oui, il y a des choses aussi assez étonnantes sur cette culture cubaine. Enfin, moi, je ne connaissais pas spécialement, mais il y a la Santeria, qui est donc une espèce de spiritualité cubaine aussi. Vous revenez dessus, là, sur la deuxième partie du livre. Et avec cette petite anecdote de la mère de Castro qui aurait fait une espèce d'offrande pour que la révolution marche. Et comme ça a marché, c'est devenu aussi fait partie de la légende. Et alors ça, je ne connaissais pas du tout la tumba francesa, donc une danse importée par des marquis français qui ont quitté Haïti après l'indépendance de l'île. Donc ils sont allés s'installer à Cuba et du coup ça a intégré là aussi la culture au moins d'une région.
Oui, en fait c'est vraiment l'idée des syncrétismes en fait où on mélange les cultures des esclaves africains qui sont arrivés. Il y a aussi un peu d'immigration chinoise, il y a cette immigration d'Haïti qui est juste à côté, il y a le côté révolutionnaire en effet de l'époque coloniale et tout ça se mélange et ça fait des mélanges complètement incroyables, hyper colorés, hyper inventifs. On adore ce genre de choses.
Donc la Santeria, c'est vraiment ça, par exemple, pour revenir là-dessus. C'est-à-dire que c'est une religion qui est assez proche du vaudou, je crois. Et ça a été apporté par les esclaves, parce que Cuba, les conquistadors, en fait, ont décimé les Indiens qui vivaient sur l'île. Et donc après, ils sont allés chercher, pour la canne à sucre et tout, ils sont allés chercher des esclaves, notamment en Afrique. Ils les ont ramenés de force et ils les ont fait travailler. Là, ils ont essayé de leur faire adopter la religion catholique. Et les esclaves sont venus en fait avec toutes leurs croyances. Ils ont réussi à les dissimuler dans les saints catholiques. Donc les conquistadors croyaient qu'ils étaient en train de prier la Vierge Marie et tout. Mais en fait, pas du tout. Derrière, en fait, la Vierge Marie, c'était...
Je ne me souviens plus,
mais c'est dans la bande dessinée.
Ils ont des vierges noires. Enfin, ils ont vraiment tout un mélange qui est génial.
Et voilà, donc la Santeria, c'est cette espèce de gros mélange bizarre, religieux, quoi, qui est vraiment unique au monde. Et pareil, pour la Tumba Francesa, c'est ça, c'est des mélanges, quoi. Ils ne cessent pas de se mélanger.
Très bonne idée. Et donc, par rapport à l'histoire peut-être plus récente, donc du coup, je disais tout à l'heure, il y avait donc des pages plus documentaires qui viennent s'insérer dans le récit, avec une présentation un petit peu différente. Donc ça, c'était aussi dès le projet de départ ou c'est venu dans la deuxième ou xème version ?
Dès le départ, on avait quand même cette envie de resituer, en fait, parce qu'on parle beaucoup de la révolution castriste. Et tout ce qu'il y a eu avant est vachement intéressant aussi, parce qu'en fait, il y a eu justement une révolution de gauche juste avant. Qui a été...
Au Guatemala
À Cuba. En effet, au Guatemala. En fait, on resitue en fait, cette histoire dans un contexte beaucoup plus large. Mais il y a eu une révolution de gauche même à Cuba. C'était le gouvernement des 100 jours, parce qu'ils ont duré seulement 100 jours, les pauvres. Et suite à quoi, Batista a été mis au pouvoir, soutenu par les États-Unis. Et c'est contre Batista que Castro va se battre. Mais du coup, ça resitue aussi. Et on trouvait ça intéressant, juste parce que nous, on ne connaissait pas. Et en fait, en se documentant, on s'est dit « Ah, mais il y a eu ça avant !» Et en fait, on essaie juste de donner aux lectrices, lecteurs un peu les billes que nous, on a découvertes et qui nous ont intéressées et où ça a fait des petites étincelles en se disant « Ah oui, ok, je comprends mieux. »
Ben, bravo. Ben, gros travail de gros travail. Non, mais de synthèse, voilà, c'était le mot que je cherchais parce que en deux pages, vous arrivez à raconter la baie des cochons, par exemple, qui est donc un échec du gouvernement américain qui a essayé, après l'arrivée de Castro, de remettre la main sur le gouvernement de l'île. Effectivement, cette histoire au Guatemala, des choses que je connaissais, mais voilà, et là, effectivement, on est dans une remise en situation très très louable. Alors, on avait un petit jeu Je sais pas si on a le temps de le faire.
Wouhou.
Voilà. Alors c'est un blind test musical. Alors là, bon, on reste dans le... Enfin, il y a un lien avec la bande dessinée, vous verrez. Ça sera à deviner. Mais on quitte un peu les ambiances cubaines. Donc il y a trois morceaux. Donc je vais pas vous faire chanter, rassurez-vous. Mais ce sera... vous allez essayer de deviner les interprètes. Alors, le premier morceau... Alors attention, je peux vous aider. Hein,
si Chantal
vous...
Goya.
Pas loin. C'est un homme.
Quelle heure est-il ?
Dorothée ?
Sardine.
Non, c'est un homme.
4h moins le quart.
Alors, c'est un acteur en fait.
Monsieur Placard, qui vous l'a dit,
ça date de 1983. Alors, il est connu pour ses duos avec Gérard Depardieu. Désolé, faut que je le cite.
Français.
Ouais.
C'est français là.
Ouais. Donc, il est connu pour ses duos avec Gérard Depardieu dans des films de Francis Weber, hein, des comédies ultra connues.
Pierre Richard.
Bravo, Pierre Richard.
Ouais.
Alors, je vous expliquerai le lien après. Vous essayez de le lien.
Ah bah oui.
Donc bravo Clément, un point pour Clément.
La chèvre, bah,
c'est notre.
C'est ça le lien. Parce qu'en effet, on a. Ah ouais.
La chèvre, c'est la structure de notre bande dessinée. C'est la chèvre en fait.
Ah bah.
C'est un remake,
je le savais
en fait.
Pas.
On a fait un remake.
Je le savais pas, mais c'est vrai qu'on retrouve ça de personnages un peu antagonistes. Mmh. Alors non, en fait, c'est pas en lien avec votre BD. Je suis désolé. C'est en lien avec la BD en général. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc deuxième morceau. Attention Lisa, c'est à toi. Facile.
Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu?
Philippe Catherine.
Bravo Philippe Catherine. Donc le morceau s'appelle Nu. Pour la petite anecdote, moi j'ai pas vu la cérémonie, mais il l'a joué tout nu à la cérémonie des JO de 2024. Paris 2024. Donc un point partout, et là pour vous départager.
Ah parce qu'en fait on joue l'un contre l'autre, c'est ça.
Ah ok, ok.
Ah, moi j'aime bien la compète et tout, vas-y.
Alors dernier morceau, attention, donc c'est plus récent. Et plus lent.
Aznavour.
Non, plus récent.
Non, c'est parce qu'il y a ça.
C'est,
ah.
C'est une chanteuse.
Chantal Goya.
Les lumières brûlent tout.
Je suis désolée.
Alors, je peux vous aider.
J'ai zéro culture en musique.
Alors, j'ai un indice. Elle a un nom de fruit.
Pomme.
Bravo. Eh ben c'est Lisa qui a gagné. Bravo.
Bravo. Bravo.
Alors pourquoi ces trois titres tous disparates et qui a priori n'ont rien à voir avec la bande dessinée. Est-ce que vous avez une idée?
Oui. Pierre, Pomme
et Jacques. Non. Ah. Non. C'est plus à la fois plus simple. Ça a à voir avec le vrai métier de Pierre Richard.
Clown?
Non. Enfin. Il joue dans des
films.
Ouais. Ouais.
Cinéma.
Ouais, ça a à voir avec le cinéma, effectivement, et la bande dessinée. Alors, je vous explique. Donc, en fait, ces trois interprètes ont joué dans des films adaptés de bande dessinée. Mmh. Et oui, c'est étonnant. Alors, Pierre Richard et Philippe Catherine ont même fait deux ensemble. Alors, est-ce que vous voulez essayer de deviner ou je vous dis direct?
C'est pas Les Vieux Fourneaux?
Alors. Pierre Richard a joué dans Les Vieux Fourneaux, donc effectivement une bande dessinée qui a été adaptée au cinéma. Non, ils ont joué tous les deux dans des films beaucoup encore plus mainstream. Donc il y a en fait le dernier Astérix, film d'Astérix, qui se passe en Chine, s'appelle Astérix et l'Empire du Milieu, où du coup Pierre Richard joue Panoramix, le Noride, et Philippe Catherine joue le Bard Assurance Torix.
Ah, wow. Ah
oui.
Voilà. Et ils ont joué dans un autre film adapté d'une bande dessinée qui s'appelle Le Petit Spirou. Voilà. Ah. Pierre Richard joue le papy. Du petit Spirou, et Philippe Catherine joue le curé du village.
Lui va bien.
Voilà, ça lui va bien, surtout qu'en plus, dans le film, il fait un petit peu de chansonnette avec la chorale de petits-enfants, et il y a un petit enfant qui lui ressemble étrangement. Mmh. Voilà, mais d'où vient-il? Alors, pour Pomme, me direz-vous, c'est un petit peu moins évident, parce que le film n'est pas encore sorti, donc elle a joué dans un film qui sortira, je pense, courant d'année prochaine, qui s'appelle Peau d'homme, donc c'est une bande dessinée que vous avez certainement lue, donc une sorte de conte féministe médiéval, donc écrit par Hubert et dessiné par Zanzim. Et voilà, donc le film sortira, et donc il y a aussi Catherine Deneuve et Karine Viard. Alors, pourquoi parler de ça, en fait? Ce qui nous intéressait, c'était un peu, effectivement, de parler des adaptations de bande dessinée sur grand écran. Voilà, il y a des choses très très variées. Il y a bien sûr les blockbusters américains autour des super-héros que vous connaissez forcément, qui sont légion et qui cartonnent au box-office. Mais il y a aussi effectivement des choses plus classiques, comme on a cité Astérix ou le Petit Spirou. Il y a eu aussi un Spirou. et plus récemment à Natacha l'hôtesse de l'air. Et également des choses un petit peu plus étonnantes en 3D autour des Schtroumpfs ou le Tintin qui a été réalisé par Spielberg et coproduit avec Peter Jackson, donc le réalisateur de la trilogie Seigneur des Anneaux. Et des choses plus pour adultes, comme Les Vieux Fourneaux qu'a cité Clément tout à l'heure, donc avec Pierre Richard entre autres. Voilà, et des choses encore plus étonnantes, par exemple le réalisateur du Sixième Sens, Night Shyamalan, si je prononce bien, qui a adapté Château de Sable, donc une bande dessinée dessinée par le Suisse Frédéric Peters. Donc il a changé le titre, ça s'appelle Old. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, vu en tout cas, un film pas inintéressant. Mais... Et du même auteur, Frédéric Peters, il y a eu l'adaptation de son autobiographique Pilule Bleue. En 2014, donc il n'y a pas eu un succès détonnant, le film. Mais la BD est géniale, voilà, où il revient sur notamment le parcours de sa compagne de l'époque, qui donc était atteinte de...
séropositive.
Qui était séropositive. Et aussi un peu dans cet ordre de plus qu'on pourrait appeler roman graphique, enfin de BD un peu plus intéressante, on va dire. Jacques Audiard a adapté plusieurs courts récits de l'américain Adrien Thomine dans un film qui s'appelle Les Olympiades, qu'il avait transposé du coup dans un quartier parisien, qui était assez réussi, j'ai trouvé. Ou alors plus connu, Abdelkatif Keshi, je vais y arriver, qui donc, avec la vie d'Adèle qui a été récompensée par la Palme d'Or à Cannes, donc était en fait une adaptation du Bleu est une couleur chaude de Jules Marot, un ouvrage aussi qui a...
Super BD aussi.
Qui a compté.
Super réalisateur.
Et le film aussi, voilà. Donc ça, souvent, on le sait peu. Et alors, tout récemment, il y a eu Ici de Richard McGuire, donc une super bande dessinée, enfin un ouvrage assez étonnant... qui n'est pas tout à fait une bande dessinée, qui a été adapté par Robert Zemeckis l'année dernière, et je crois qu'il a fait un échec assez retentissant, alors que c'était Robert Zemeckis et toute l'équipe de Forrest Gump qui reprenaient cet ouvrage.
C'est quand même un défi de reprendre cet
complètement,
ouvrage, qui a une narration très très spéciale.
Voilà, deux mots, c'est en fait une espèce de plan fixe, où on voit à différentes époques l'intérieur d'une maison, avant qu'elle soit construite, pendant, après. Et donc, du coup, le film reprend ça plus ou moins, de façon plus ou moins réussie. Mais c'était, en tout cas, un sacré défi de le faire. Voilà. Alors, ce qui nous intéressait aussi, c'était de parler, effectivement, d'un coup de projecteur sur la bande dessinée par le 7e art. Donc, montrer aussi une certaine légitimité que la bande dessinée acquiert auprès du média ou du grand public. Mais aussi, on peut se demander si c'est pas aussi un manque d'inspiration ou de prise de risque des producteurs qui, du coup, préfèrent reprendre des bandes dessinées plus ou moins connues, voire des romans, plutôt que de créer des nouvelles choses. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus.
Oui, moi, je pense carrément. En fait, je pense que la BD connaît un âge d'or, que c'est hallucinant. Quand on va en librairie, en fait, il y a un nombre de sorties incroyables. Et parmi ces sorties, il y a énormément de chefs-d'œuvre. Enfin, sincèrement, tous les ans, il y a des BD absolument géniales. Et je pense qu'en fait, on a une grosse, grosse liberté en BD parce que ça coûte pas très cher. Ça demande de l'investissement en temps. On n'est pas hyper bien payé, mais je veux dire, sinon, ça nous demande, ce que disait Clément, un stylo, un crayon, un papier, et on peut faire une BD. Pour l'impression de livres et les éditeurs, c'est pas des énormes enjeux non plus. Et en fait, on peut prendre énormément de risques, tenter énormément de choses, et je pense que la BD, vraiment, c'est l'art le plus florissant en ce moment. Je trouve ça assez incroyable.
Je suis complètement d'accord.
Ben moi aussi. Ça, on est tous d'accord, c'est super. Alors, comme il nous reste un petit peu de temps, alors il n'a pas pu être parmi nous, mais Boris Henry, un éminent spécialiste de bande dessinée, entre autres choses, qui est parti en vacances ce matin même, a écrit une petite chronique sur un ouvrage, je pense, que d'une autrice que vous connaissez, c'est la Marseillaise Claire Fauvel.
Ouais,
donc son dernier livre s'appelle Les yeux d'Alex. Donc ça vient de paraître là il y a une quinzaine de jours aux éditions Glénat, dans la collection Millefeuille. Donc c'est un ouvrage assez conséquent, 200 pages. Donc elle a assuré à la fois le scénario, le dessin et les couleurs. Voilà, donc je vais lire la chronique de Boris, et puis après peut-être on pourra réagir sur ce livre. Donc ça fait partie, avec Le Lion de Guantanamo, des ouvrages assez marquants de cette rentrée BD. Des auteurs et des autrices marseillaises. Donc, vivant à Marseille, la jeune photographe Alex est sélectionnée par les Rencontres de la photographie d'Arles pour présenter son travail lors d'une exposition. Elle décide d'explorer le désir en inversant les points de vue et ainsi les regards. Elle va questionner et représenter son désir et photographier de jeunes hommes, notamment dans les paysages des Calanques. Claire Fauvel continue de tracer sa route singulière, proposant un récit qui est bien d'aujourd'hui, tant elle entremêle les problématiques et les partis pris esthétiques. Expression physique quelque peu inspirée du manga, grande liberté dans le traitement des corps et des questions de société, ancrage dans la réalité quotidienne d'une ville. Si nous suivons Alex dans ses recherches photographiques, nous sommes témoins de ses réflexions, attentes, surprises, changements. Au fur et à mesure qu'elle précise son travail et réalise ses photographies, elle affine son regard, ses pensées et ses actes. Elle se cherche, en art, comme dans la vie, mais elle s'affirme toujours davantage. L'autrice balaye les tabous avec un naturel déconcertant, que ceci concerne le corps, le genre, la jeunesse, le sexe, la prédominance du regard masculin. Son regard et son ton n'hésitent pas à être mordants, mais ils ne tombent jamais dans le cynisme. Claire Fauvel n'hésite pas à s'attacher à des éléments du quotidien, évitant bien des ellipses, ralentissant en quelque sorte le rythme pour pointer des gestes, situations, moments, présence. C'est subtil et touchant. Elle s'attache également à décrire la vie marseillaise, ancrant toujours davantage sa fiction dans le réel, en situant son récit dans des lieux, la salle de concert L'Embobineuse, le karaoké Singer Die, et des éléments concrets, comme les rats et les gabions qui les attrapent. Réalisées en couleur directe à la gouache, ces pages sont extrêmement lumineuses et exhalent en leur cœur la Méditerranée, bleu de la mer et du ciel, ton orangé rappelant la dimension ensoleillée des lieux, etc. Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez lu cette BD. Je pense que vous connaissez Claire Fauvel.
Alors Claire Fauvel, c'est vraiment une immense autrice dont on adore le travail depuis longtemps. Moi, j'ai commencé à lire cette bande dessinée. J'avoue que je la savoure. Je prends vraiment le temps parce que c'est un pur régal. Alors l'histoire est géniale. Les personnages sont extrêmement attachants et puis très naturels, très bien campés. Mais graphiquement, c'est une telle claque que vraiment je savoure comme, tu vois, du bon vin, chaque page, chaque
case. À consommer avec modération. Là.
Ouais, mais là, pas. Il faut y aller à fond et tout, mais je prends le temps et ouais, je me promène dans cette bande dessinée. C'est un pur régal, en effet très lumineuse, très belle, quoi.
Voilà. Alors citons également dans les sorties, il y a Une Obsession, la dernière BD de Lynn Antico, on parlera certainement dans une prochaine émission, et une bande dessinée collective sur Saint-Jean-Perse, à laquelle Lisa a participé. Donc on pourra en reparler aussi. Et moi, je voudrais, du coup, pour finir, parce qu'il nous reste encore 2-3 petites minutes, peut-être vous nous parliez un peu de vos projets rapidement. Je sais que vous avez plein de choses sur
lequel
le feu. Voilà. Celui du moment, je dirais.
On en a beaucoup, mais le Gange. Ouais. Là, on repart avec Clément sur une fiction sur le Gange qui a été décrété personne morale pour le protéger.
Qui est un fleuve en Inde.
Qui est un fleuve en Inde, tout à fait. Et qui a été donc décrété personne morale. Et c'est tout nouveau, en fait. C'est peut-être notre BD qui parle de la révolution la plus pacifique de toutes nos BD, parce que en fait c'est au niveau du droit qu'on essaie de faire avancer le droit de la nature pour que la nature on lui reconnaisse des droits. En fait, il y a plein de gens qui ont des droits aujourd'hui, ça nous paraît naturel, mais au début ça a été bizarre. Par exemple, les enfants n'avaient pas de droits, et le jour où on a commencé à émettre l'idée qu'ils pourraient en avoir, ça a paru bizarre.
Les femmes aussi, je crois.
Les femmes, les noirs, etc. Et donc en fait le droit peut évoluer, il y a des personnes morales, des entreprises, etc. Et là on est en train de se rendre compte que ça devient évident qu'en fait il faut que la nature ait des droits, qu'elle puisse être protégée pour elle-même, pas seulement pour les intérêts humains, mais parce que, en vrai, on a aussi besoin d'elle et ça protégera les humains également. Et voilà, donc ça, c'est hyper réjouissant, en fait, je trouve, ce mouvement qui existe dans le monde entier. Il y a aussi, ça existe aussi en Équateur, où ils ont reconnu la Pachamama, la terre-mère, dans leur constitution, carrément. Et voilà, il y a ça SM, il y a aussi, évidemment, le Parlement de Loire, en France, qui expérimente énormément de choses passionnantes. Voilà.
Et nous, en fait, ce qu'on va faire à travers cette bande dessinée, c'est parce que cette décision-là a été cassée quelques temps après avoir été prise par un tribunal de l'Himalaya, quoi. Et donc, on va suivre Ganga. C'est une sorte de biographie géographique, quoi. Ouais. On remonte donc le long du Gange jusqu'à sa source et on raconte les gens qui vivent.
Et elle rencontre une petite bouteille en plastique qui est une rivière française qui est venue à sa rencontre.
Ouais, on a hâte de lire ça. Merci beaucoup. On attend de lire ça, je le disais. Donc merci encore Lisa et Clément pour cette première édition. Merci beaucoup à Louise pour la technique.
Merci
à vous d'avoir écouté. À très bientôt. Merci.